histoire de terre.
Si vous voulez, je pense que notre rôle de paysan, c'est quand même de produire. On n'est pas là juste pour entretenir le paysage. Les semences de tout temps, elles ont été sélectionnées, multipliées par les paysans eux-mêmes.
Laurent Pénicaud fait pousser des blés anciens en Haute-Vienne sur la commune de Linard et élève des brebis à l'herbe. Il y a 30 ans, il a commencé à élever des brebis en bio, mais de manière traditionnelle, c'est-à-dire des agneaux et des brebis élevés en bergerie. Et puis en 2007, il y a eu une hausse des prix sur les aliments qu'il donnait aux brebis, ce qui l'a amené à se questionner et à changer sa pratique d'élevage. Et il a décidé de mener son troupeau en faisant de la brebis, ce qu'on appelle de la brebis à l'herbe, c'est-à-dire soit qui mange dans des prairies, soit qui ont du fourrage qui est produit sur la ferme. Et de ce fait, il s'est intéressé aux céréales et notamment au blé. Avec d'autres producteurs, ils ont commencé à travailler sur des variétés anciennes de blé. Ils ont récupéré des petites poignées de semences qu'ils ont multipliées au fur et à mesure et qui se sont adaptées. Il s'est maintenant équipé d'un moulin à striguer et fait de la farine qu'il commence à vendre. C'est notre histoire de terre du printemps et c'est parti pour une heure.
Mais voilà, donc on est sur une zone de Piémont, avec pas mal de bocages. La ferme, elle fait 70 hectares environ. Une partie en élevage et une partie en culture. Donc une partie en culture notamment orientée sur les blés anciens. Enfin spécialisée dans les blés anciens, je dirais plus précisément, parce que je cultive que des variétés anciennes. On est variété paysanne, parce que voilà, variété ancienne, c'est pas tout à fait vrai. On dit plutôt variété paysanne parce qu'elles ont été sélectionnées par les paysans. Voilà, donc ça c'est une partie, et l'autre partie c'est donc du mouton de 160 brebis qui est élevé uniquement à l'herbe, avec des agneaux qui sont uniquement produits à l'herbe, donc de manière très économe et très autonome surtout. Voilà, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, les agneaux sont faits à l'herbe et les variétés anciennes sont produites sur la ferme depuis 2011. Voilà, variété ancienne qui est devenue vraiment une passion, une passion sur la ferme. Et depuis peu, donc depuis environ 3 mois, je suis équipé d'un moulin à strier pour produire ma farine, voilà, que je commercialise localement pour l'instant, et le plus localement possible en fait. Voilà.
Donc là maintenant, vous faites de la production de semences jusqu'à la farine. Donc vous maîtrisez toute la chaîne de production céréalière.
Oui, tout à fait. Donc je suis entièrement autonome au niveau des semences. Donc ça a commencé, c'était en 2011 lors d'une réunion avec Florent Mercier, qui est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans les variétés anciennes de semences, variétés paysannes, c'est la même chose. Hein. Donc qui a ressorti des semences de l'INRA à Clermont-Ferrand. On peut récupérer quelques graines, évidemment, c'est des très petites quantités. Donc il a multiplié ça patiemment, il y en avait beaucoup, il y en avait environ 400. Et cette personne est venue nous faire une formation en 2011, il nous a amené quelques graines. Voilà. Donc la passion, elle est partie de là. Bon, la première année, effectivement, la réunion était un petit peu tard, donc j'ai pas semé les graines, c'était fin novembre, donc je pensais que c'était un peu tard. Et l'année d'après, donc j'ai mis ça en place, et puis effectivement, il y avait 2 mètres carrés, hein, donc de chaque variété, 2 variétés, du Saint-Prier et le Vernois Rouge, et un Rojo de Sabando, qui est un blé espagnol. Donc j'avais ces 2 variétés dans mon jardin, et bon, effectivement, waouh, quand on voit les plantes, ça a été le déclic, quoi. C'était la passion était là, quoi. Donc des plantes magnifiques, avec des couleurs extraordinaires, des bleus, des voilà. Bon, il se trouvait que le rodeo de Sabando n'était pas très adapté à ma ferme. C'est des variétés qui iraient plus sur des terrains légers, peut-être comme sur le plateau de Millevaches, par exemple. Donc ça, j'ai abandonné, les variétés versées, enfin, voilà. Mais après, on a créé un groupe au niveau de la FR CIVAM.
Qu'est-ce que c'est la FR CIVAM ?
Ben, c'est un groupe d'agriculteurs en fait qui se rassemble pour échanger des connaissances, voilà. Donc c'est pas, on peut faire venir des formateurs, mais c'est surtout un échange entre agriculteurs, voilà. Donc il y a eu un groupe au niveau de la FR CIVAM, un groupe semence avec une animatrice. Donc là ça a été des échanges, donc ça a été très enrichissant parce qu'on s'est changé des variétés, donc ça a été un petit peu plus vite. On a pu réussir à faire semer un petit peu plus de surface assez rapidement. Et voilà, ça fait de toute façon, ça fait échanger des connaissances et c'est essentiel, quoi. Voilà.
Et quand on parle de variétés anciennes ou variétés paysannes, c'est par opposition aux variétés qui sont inscrites au fameux catalogue, c'est ça ?
Oui, alors voilà, donc les variétés paysannes, c'est des variétés qui ne sont pas inscrites au catalogue. Pour la bonne raison, c'est que ça n'a pas de sens en fait. Parce qu'une variété inscrite au catalogue, elle doit correspondre à des critères qu'on appelle DHS. Donc différent, le D c'est différent, homogène et stable. Donc ça c'est pour les semenciers effectivement, voilà, c'est-à-dire que vous allez acheter une semence chez un semencier, elle sera toute pareille, vous avez des chances que ce soit homogène. Alors que nous on n'est pas du tout dans cette logique, c'est une logique si vous voulez, on commence à multiplier des petites quantités, la raison elle est aussi là pour adapter la semence, elle s'adapte au terroir en fait, d'année en année. Et donc, effectivement, il y a une diversité qui se crée, une adaptation de la semence. Et effectivement, elle n'est pas homogène, donc elle ne sera jamais homogène. Et ça, à la limite, ça ne nous intéresse pas, quoi. On n'a pas envie d'avoir des semences qui sont homogènes, qui sont stables, alors encore moins, parce qu'il faut qu'elles s'adaptent. Donc, vous voyez, ça ne peut pas être inscrit au catalogue.
Le catalogue, pour expliquer... c'est le catalogue officiel... Je ne saurais pas expliquer ce que c'est le catalogue, si vous pouvez...
Oui.
Vous en dire.
Oui, oui. Ben, le catalogue, c'est, si vous voulez, pour vendre une semence en tant que semencier, c'est une loi, il faut que cette semence soit inscrite au catalogue. Voilà, c'est pour garantir effectivement à l'acheteur de cette semence un produit qui correspond à des critères. Si vous voulez, au fond, c'est quand même louable, effectivement, parce que la personne, elle sait ce qu'elle achète. Sauf que après, ça a été le problème, c'est que c'est interdit de vendre des semences si elles ne sont pas inscrites au catalogue. Donc, sauf dans un cadre d'essai, voilà, de recherche en fait. Donc, on se sert de ça pour s'échanger les semences en petite quantité. Voilà. Là, on reste encore dans le cadre de la loi, mais effectivement, on n'a pas le droit de vendre des grosses quantités de semences. Ce qui n'est pas forcément... en fait, ce n'est pas forcément le but, parce que si on veut que la semence s'adapte au terroir, donc effectivement, il faut partir de petites quantités, quoi. Alors, quelle est effectivement la petite quantité ? Bon, après, voilà, c'est toujours un petit peu... c'est toujours un petit peu flou, mais l'esprit, il est là, quoi. C'est vraiment chercher la semence qui est bien adaptée à son terroir et effectivement la multiplier sur son terroir, ce qui fait une semence qui, effectivement, va bien vous correspondre. Et vous pourrez garder cette semence parce que la diversité intra-végétale de cette variété sera bien plus grande qu'une variété de semencier qui va dégénérer d'année en année et vous serez obligé de racheter des semences tous les ans. Voilà. Donc là, ça me permet d'être complètement autonome, d'avoir une variété qui est très adaptée à mon terroir, qui effectivement fait des rendements qui sont bien meilleurs que les variétés modernes, en bio, hein, bien sûr, hein, je parle en bio, hein, parce que... Enfin, voilà. Souvent, je fais la comparaison avec une deux chevaux et une Ferrari. C'est un peu ça. Si on vous donne le choix, vous allez peut-être dire je prendrais peut-être plutôt une Ferrari, sauf que si vous voulez traverser le désert et que vous n'avez pas beaucoup d'essence, voilà, il vaut mieux une deux chevaux, ça c'est sûr. Donc c'est un petit peu ça.
Et alors, quand on parle le critère de stabilité, Est-ce que ça veut dire que les variétés que vous avez, elles vont être plus sensibles aux aléas climatiques que les semences du catalogue?
Ben non, au contraire. La stabilité, en fait, les semenciers font des semences qui sont pas forcément adaptées à un terroir, qui peuvent être semées dans toute la France. Ça les gêne pas, au contraire, s'ils peuvent en vendre partout, c'est mieux pour eux. Donc effectivement, on a des plantes qui, en fonction du territoire, ne seront pas forcément bien adaptées, quoi. Alors que si on a vraiment trouvé sa variété qui vous correspond bien, vous avez des variétés qui, enfin pour ma part, on a fait des essais même, qui effectivement sont plus résistantes à tout point de vue. Bon, mauvaises herbes, il n'y a pas de doute, parce que bon, il faut savoir que les variétés anciennes, elles ont des pailles qui font entre 1,40 m et 1,60 m, voire 1,80 m des fois. Bon, attention à l'averse aussi.
Donc beaucoup plus importantes que des variétés classiques, beaucoup plus grandes.
Voilà, complètement, oui, donc qui se défendent beaucoup mieux par rapport aux mauvaises herbes. Donc en bio, beaucoup plus adapté. Mais effectivement, par rapport au conventionnel, qui utilise des désherbants, voilà, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Donc déjà, lutte contre la mauvaise herbe, bien meilleure, ça c'est clair. On a fait des essais avec les chambres d'agriculture, et effectivement, là on a vu carrément le constat où le blé ancien était là, et puis il était beau, et les variétés modernes, c'était, il n'y avait que de l'herbe pratiquement, avec des rendements qui étaient à 10 quintaux en dessous, quoi. Après, au niveau des maladies... les semenciers, enfin pour ma part, on a l'impression qu'ils font des recherches sur les résistances aux maladies. Et avec mon expérience, peut-être qu'elle n'est pas assez importante, mais effectivement, les variétés paysannes, pour moi, sont bien plus résistantes. Et on l'a pu constater aussi l'an dernier, où effectivement c'était une année très difficile au point de vue pression des maladies cryptogamiques, champignons, rouille, etc. Les blés anciens sont touchés, effectivement, mais ne sont pas impactés, quoi. Ils sont très peu impactés.
Qu'est-ce que ça veut dire, peu impactés?
C'est-à-dire que ça n'influe pas trop sur le rendement et la qualité des grains. Voilà. Donc, alors que la variété moderne, qui était du Renan, était quand même bien échaudée, avec des grains petits et ridés, quoi. Et les blés anciens étaient encore très magnifiques, quoi. Donc effectivement, bon, mais tout ceci est bien entendu en utilisant une culture bio, où on n'utilise pas de traitement, et voilà, parce que la variété moderne, effectivement, en passant plusieurs désherbages et effectivement plusieurs fongicides, on arrive peut-être à avoir des résultats qui sont meilleurs en rendement, ça c'est certain, mais pas en qualité, c'est certain aussi.
Donc auparavant, vous faisiez déjà des céréales, avec d'autres variétés. Et puis à un moment, vous êtes intéressé aux variétés anciennes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de façon de travailler, et pourquoi vous en êtes venu à la meunerie?
Donc pourquoi j'ai changé mes manières, c'est... Disons que les blés anciens, ça me parlait déjà. J'avais envie de savoir ce que c'était. Donc effectivement, une fois que j'ai eu mis ça en place, c'est le déclic a été là, quoi. Je me suis rendu compte rapidement que c'était des variétés qui étaient bien plus adaptées à la bio. Et ensuite, au niveau culture, c'est des variétés qui vont très très bien en bio, qui sont très adaptées, qui effectivement me donnent entière satisfaction. Et après, la suite, c'était de savoir un petit peu ce que donnait le produit. Donc on a commencé à faire des essais de panification avec différents boulangers. Et on s'est rendu compte que des pains qui étaient faits avec des farines comme le Renan, par exemple, ça donnait des pains qui étaient vraiment insipides, réputés pas très bons pour la digestion, quoi. Pas mal d'intolérance à ce niveau-là. Et après, quand on a effectivement testé les variétés anciennes, c'est des parfums assez incroyables. Chaque variété a des parfums différents. Des parfums de noisettes, de caramel, de miel, de sucré, moins sucré. C'est vraiment une diversité au niveau des goûts qui sont incroyables, quoi, et qu'on a complètement perdu avec les variétés modernes. Donc c'est vrai que là, forcément, ça allait de soi de s'équiper d'un moulin. Et donc j'ai pris la décision, donc il y a 2 ans, d'installer un moulin. Et en ayant fait le tour des fabricants de moulins, il n'y avait que les moulins à striers qui pouvaient correspondre à la qualité de meunerie que je désirais. Donc ça a été la commande de moulin strié avec un délai de 2 ans, parce que c'est très long, c'est très demandé, c'est très long, c'est un peu l'horloge suisse des moulins, quoi, avec une qualité de farine extraordinaire. Mais voilà, il faut être un petit peu patient. Et du coup, ça m'a laissé le temps de monter un bâtiment pour installer mon moulin, et voilà, bon, ben ça fonctionne. Et c'est vraiment très très enrichissant, quoi.
Alors, c'est quoi les caractéristiques d'un moulin strié ?
Oui. Alors, les moulins striés, c'est des meules de pierre. C'est des meules de pierre en granit, du Tarn, qui ont une taille qu'on appelle à la française, en fait. Mais c'est une taille très précise. Parce que les astriers, c'est deux frères qui ont mis ce système au point et qui ont fait beaucoup de recherches dessus, qui ont formé quelques personnes. Bon, maintenant ils sont un petit peu âgés, mais ils ont quelques disciples, enfin notamment deux en France, quoi, donc c'est très peu. Donc il y a une taille de pierre très précise. Et après, il y a quelques petites choses assez géniales, c'est-à-dire que les meules sont, la meule tournante, elle est montée sur un ressort, elle est flottante en fait. Et vous la mettez bien parallèle à la meule qui est dessous, pour de manière à ce que juste la parallélisme est vraiment très précis, vu qu'elle est flottante en fait. Voilà. Donc on arrive vraiment à extraire le meilleur du blé, dont la cisse protéique, qui est en fait juste en dessous de l'enveloppe et qui est une partie, c'est comme la peau d'une pomme en fait, où on a toutes les vitamines et les minéraux. Et donc la cisse protéique est extraite par ces moulins striés. Et ça, je pense que c'est à peu près les seuls qui arrivent à faire ça. L'autre caractéristique aussi, c'est que c'est des moutures très lentes, donc qui ne chauffent pas la farine. Donc à la sortie du moulin, on a des farines qui sont à moins de 30 degrés, quoi. Voilà. Donc on garde effectivement toutes les vitamines qui, au-delà, sont oxydées, quoi. Donc du coup, effectivement, c'est vraiment de la très haute qualité, quoi.
Est-ce qu'on va voir un peu tout ça alors ?
Oui.
On a envie de voir des images.
Oui, bien sûr. Alors la visite du moulin.
Donc c'est par ici.
Ouais, c'est par là. C'est par là. Alors voilà le moulin. Donc la salle de meunerie.
La salle de meunerie.
Donc ça, voilà le moulin, le fameux moulin strié, qui est simple d'aspect, mais qui est plein de petits points techniques qui sont très performants et qui ont du mal à être copiés, quoi. Mmh. Voilà. La simplicité, c'est toujours ce qui marche le mieux en plus. Hein.
Donc j'imagine que le grain, il est stocké là-haut et il tombe dans la trémie qui est là.
Voilà, c'est ça. Donc il y a une trémie tampon en dessus du moulin où je peux stocker à peu près 600-700 kg le temps d'une journée de mouture à peu près. Voilà.
600-700 kg par jour on peut moudre.
À peu près, oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc c'est une meule de 1 mètre. Chez les frères Astrier, ils ont fait deux diamètres de meule. Ils ont fait une meule de 50 cm et une meule d'1 mètre. Pourquoi 50 et 1 mètre ? Bon, le gars qui a fabriqué le moulin, il m'a expliqué que la meule d'1 mètre est rentrée dans l'estafette et que l'autre est rentrée dans la mi-8, je crois. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Voilà, c'était très pratique, en fin de compte. Donc c'est un moulin qui débite à peu près entre 30 et 40 kg à l'heure, quoi. Voilà, donc c'est des moutures lentes, hein. c'est des moutures très respectueuses du produit. Alors ensuite, il y a les systèmes de réglage, hein, qui sont simples, hein. Faut reconnaître que c'est pas très compliqué. Après, il y a la buterie, donc moi je suis équipé de 4 tamis.
Alors la buterie, qu'est-ce que c'est ?
Alors la buterie, c'est là où on trie le son de la farine. Alors bon, c'est un petit peu, il y a une chose à dire là-dessus, c'est quand même les farines, quand vous les achetez, c'est du T65, T80, T110, T140. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le taux de cendre en fait dans la farine. Et le taux de cendre, ça correspond à une incinération de 5 grammes de farine pendant 1h30 à 900 degrés. Voilà.
Okay.
Donc après, voilà, donc vous pesez les cendres. Et après, s'il y a 1,40 g de cendre, c'est daté 140. Voilà. Donc, par contre, pour nous, paysans meuniers, c'est pas facile parce que, bon, vous faites comment pour effectivement avoir ça? C'est un peu compliqué. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a des tamis, en fait. Dans des tamis qui correspondent plus ou moins à ces normes. Parce que, en fait, la législation, elle veut que ce soit ça qui soit affiché sur les étiquettes. Mais c'est pas hyper précis, si vous voulez. Donc, chez nous, c'est des tamis avec des mailles. Des mailles de 300 microns, 600 microns, voilà. Donc, alors, ça correspond effectivement au taux de cendre, enfin, à la réglementation, quoi. Bon, pour être juste, il faudrait mettre effectivement le tamis que j'utilise pour la farine, quoi. Mais là, personne ne comprendrait, donc ça n'a pas de sens. Donc après, voilà, on pourrait mettre aussi bise, complète, demi-complète. Ça serait peut-être aussi bien, d'ailleurs. Et
c'est pas rajouté, des fois, sur
ça peut,
les...
oui, ça peut. Mais légalement, c'est pas légal. Donc, ouais. Donc bon, après, voilà, c'est pas une grosse production non plus. Ça pourrait, effectivement, je pense qu'il n'y aurait pas forcément de problème par rapport à ça. Parce que pour l'instant, moi, je mets 65, 80, voilà. Mais ça ne correspond pas forcément à ce que vous allez acheter dans le commerce, parce que la mouture est complètement différente. Le moulin, si vous voulez, quand je fais une mouture à la 140, moi, c'est directement un tamis qui va tamiser la farine, qui va tamiser le produit, la mouture, et après, voilà, où il y aura la farine d'un côté et le son de l'autre. Mais ce n'est pas ce qui est utilisé en industrie. Ils rajoutent du son, en fait. Ils font une mouture, ils rajoutent du son. Voilà.
Ah oui.
Donc ça n'a rien à voir.
C'est sus inverse.
Ouais, c'est... Donc déjà, au niveau qualité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc vous allez utiliser de la farine 140 chez moi, vous n'allez pas du tout avoir le même produit qu'une farine 140 achetée dans le commerce. Vous aurez une farine qui sera beaucoup plus fine, où il y aura le germe, parce que dans les farines industrielles, en principe, il n'y a pas de germe, il est parti avec les cylindres, enfin bon. Voilà, donc si vous voulez, vous aurez une farine qui sera plus parfumée, que vous pourrez utiliser pour la pâtisserie, même de la 140. On fait des gâteaux avec de la 140 sans problème. Après, c'est un petit peu des habitudes.
Et... Au niveau du goût ou au niveau du travail?
Non, au niveau des personnes qui font la pâtisserie. Au niveau du particulier, on a l'habitude de faire avec de la 45 à pâtisserie, voire 65. Alors après, non, on n'en parle pas. Alors qu'en fait, pour moi, c'est une aberration. Parce que si vous avez toutes les propriétés de la farine, il faut être plus haut, quoi. C'est-à-dire il faut être dans la 80, 110, 140, car vous allez effectivement avoir les minéraux. Parce que ce qui dans le taux de cendre, ce qu'il y a, c'est les minéraux, quoi, en fait. Donc voilà. Donc moi, je conseille minimum 80 pour faire de la pâtisserie, et ça marche très très bien. On fait des gâteaux avec de la 140 sans problème, hein. C'est pas un souci. Ça, c'est... Voilà. Donc après, il y a une... Après la buterie, il y a une chaîne d'ensachage, donc je mets 8 sacs voilà, qui se remplissent automatiquement.
Qui sont protégés de manière à ce que ça ne vole pas dans tous les sens, c'est ça?
Oui, alors voilà, les moulins sont bien faits, c'est-à-dire qu'au niveau de la buterie, il y a une aspiration, qu'on voit ici avec le tuyau, là, donc, qui permet d'éviter les poussières. Et après, au niveau des sacs, c'est fermé, donc il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est complètement fermé, y a pas de, une fois que le produit est moulu, il n'y a pas de... C'est pas à l'air libre, quoi. Après, bon, après, il y a un petit poste pour faire les sacs et puis peser.
Et alors, pour commercialiser cette farine, vous fonctionnez comment? Vous travaillez avec en vente directe ou avec des intermédiaires?
Donc, pour l'instant, je fais que de la vente directe. Bon, c'est un choix au départ pour que le consommateur connaisse bien le produit, puisse venir me voir et acheter le produit à la ferme. J'ai pas de vente par intermédiaire, sauf le pêle-mêle à Mémac, qui est un magasin qui va en vrac. Donc ça, l'esprit m'intéressait bien, donc je les ai contactés. Mais j'ai contacté aucun magasin bio sur Limoges ou ailleurs. Donc c'était voilà. Donc je préfère faire directement au consommateur. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font leur pain et qui sont vraiment très très ravis d'avoir mes farines. Donc tout le monde est content. Après, j'ai contacté des boulangers bio sur Limoges et un petit peu dans la région. C'est un petit peu plus difficile, mais bon, je pense que voilà, il faut ça va se faire aussi, quoi.
Qu'est-ce que c'est les réticences des boulangers pour utiliser ce type de farine?
Bon, ils m'ont dit que c'était une question d'organisation, quoi, au départ. Après, je suis un petit peu plus cher que ce qu'ils ont l'habitude d'acheter, mais par rapport aux variétés anciennes, non, je pense être complètement dans les prix. mais bon, ils sont pas trop habitués, c'est un produit différent, effectivement. Alors au niveau travail, après au niveau du pain, il faut changer un petit peu ses habitudes, parce que les variétés anciennes ont des gluten qui sont beaucoup plus digestes, parce que c'est des chaînes qui sont plus fragiles, et du coup, il faut moins les malmener. Donc le pétrin, il faut pas trop s'en servir. L'idéal, c'est pétrissage manuel. Donc là, voilà, on ne casse pas les chaînes de gluten. Donc le pain, il lève très très bien. Par contre, si vous le matraquez au pétrin, ça ne marche pas. Donc c'est des manières un petit peu différentes de travailler. Donc bon, après, ça leur fait peut-être un petit peu peur à certains. Bon. Et puis c'est vrai que je n'ai pas non plus beaucoup cherché de ce côté-là au niveau commercial. Je change la clientèle, elle vient toute seule de bouche à oreille. Voilà. Donc voilà, c'est pas... Ça se fait naturellement. Quand les gens ont commencé à utiliser mes produits, il n'y a pas de souci après.
Voilà. Donc on a vu l'aspect production de farine. En ce qui concerne la production de céréales, de quoi on a vous avez combien d'hectares cultivés?
Donc actuellement, cette année, j'ai une dizaine d'hectares de blé ancien. Donc j'ai une variété de la variété Saint-Prié et le Vernois rouge, j'en ai 9 hectares. Donc c'est une variété qui va très très bien chez moi, qui est très parfumée, qui a des grosses qualités. Après j'ai 1,5 hectare où il y a d'autres variétés qui sont en test, où il y a 9 variétés différentes. Donc voilà, il y a une variété Bladette de Provence qui me paraît très très bien, qui a des parfums très sucrés, très très mielleux pour faire des gâteaux, c'est assez extraordinaire. Donc je vais m'orienter un petit peu plus aussi sur cette variété, sachant qu'en gros, en production, j'ai le droit de produire 30 tonnes de farine par an. Ça, c'est une réglementation en tant que paysan meunier, parce que sinon, après, je suis meunier, et là, il me faut des contingents. Voilà. Donc il faut racheter des contingents. Ça, c'est une histoire de... C'est dans les années 30, il y avait trop de moulins, et ils ont mis une réglementation, c'est-à-dire que les moulins qui existaient, ils leur ont donné des contingents pour continuer à produire, et ils ont interdit la nouvelle installation de moulins. Quoi. Voilà, donc ça en est resté là. Moi, je trouve que c'est une entrave à la libre concurrence. Ça pourrait même être attaqué, je pense, au niveau d'Europe ou des choses comme ça. Je trouve que c'est pas normal. Mais tant qu'on est paysan, on peut moudre effectivement 30 tonnes sur sa ferme. Voilà, c'est une dérogation en fait. Voilà. Donc mon objectif, moi, c'est d'arriver à ce tonnage-là. Ce qui me fait à peu près, en gros, 2,5 tonnes par mois. Quoi. Et avec 10 hectares de blé, j'en serai peut-être pas loin l'année prochaine, quoi, si tout va bien.
Donc là, vous continuez toujours les recherches sur de nouvelles semences à tester et à multiplier?
Oui, complètement. Oui, tout à fait. C'est toujours un enchantement de voir des nouveaux blés, de voir des nouveaux parfums, des nouvelles plantes qui sont vraiment extraordinaires. Et là, donc j'ai effectivement cette bladette de Provence que j'ai pu tester en pain l'an dernier. On a trouvé vraiment quelque chose de vraiment très très sympa au niveau des goûts. Après, j'ai ce qu'on appelle des blés poulards, qui sont des blés qui ont des gros épis. On retrouve encore des choses différentes, mais bon, on n'a pas encore trop testé en farine parce qu'on n'a pas assez de production. Quoi. Donc c'est assez lent, hein. Il faut déjà 2-3 ans pour arriver à avoir assez de blé pour faire de la farine. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Quoi. Mais c'est vraiment passionnant. D'un côté, là j'ai des poulards, j'ai des blés qui sont... J'ai plusieurs variétés de poulards, des blés espagnols, des blés... des blés de Nonnette de Lausanne, qui sont des blés des Alpes, donc voilà. Donc toujours une recherche permanente, et de plus en plus, je pense.
Et donc toutes ces semences-là, ce sont des petites quantités que vous avez récupérées d'autres producteurs qui vous les échangent ou qui vous les font tester, quoi.
Oui, tout à fait, c'est ça. Donc toujours le même processus, on part de petites quantités qu'on multiplie sur la ferme, patiemment. Avec des vieux outils, d'ailleurs, on ressort de vieux outils des greniers. Donc, au début, c'était un peu les faucilles, mais bon, on s'est un petit peu modernisé. On a récupéré une machine à section, une petite barre de coupe. Et j'ai acheté une vieille batteuse, en fait. Mais juste un batteur.
D'accord, c'est pas une moissonneuse-batteuse.
Non, c'est juste un batteur, une égreneuse, il y en a qui disent, voilà, qui permet de moissonner des petites quantités. Donc, on fait les gerbes à l'ancienne. Et après, on met les... Voilà, il y a les photos hein, pour regarder, si on veut.
Ce sont des blés qu'on sème à quelle époque, à l'automne ou au printemps?
C'est beaucoup des blés d'hiver, donc qu'on sème à l'automne. Donc ils passent l'hiver dans les champs où ça bouge pas trop, parce qu'ils sont souvent assez tardifs. Hein. Donc il leur faut un temps de végétation assez long. Donc voilà, on a des photos de Saint-Prié-le-Vernois. Et là, on voit les belles couleurs bleues, là, effectivement, hein, c'est très joli. Avec quelques rodios de sabando, là, qui sont...
Qui passent par-dessus. Voilà.
Après, c'est toute une connaissance, c'est tout un savoir paysan, hein, où on connaît effectivement les variétés. Moi, je sais que c'est un rodio de sabando, parce que, voilà, la barbe et tout ça, je sais que dans ce mélange, j'ai un petit peu de rodio de sabando. Voilà, variété que j'ai abandonnée, mais que je peux retrouver, effectivement, dans mes... Il y a très peu de croisements dans les blés, hein, c'est très faible. Donc effectivement, on voit des pailles qui sont très très, très jolies. Dans le sens des choses, donc là c'est les semis, voilà, et puis pour se rendre compte un petit peu de la hauteur des blés, voilà, il y a mon fils qui fait 1m85, okay. Et il y a des épis qui dépassent de 20 cm. Donc voilà. Bon, c'était un petit peu particulier, c'était une parcelle qui était vraiment très riche, avec du rouge de Bordeaux, variété que j'ai abandonnée parce que je la trouve pas suffisamment intéressante au niveau des parfums, quoi.
Voilà. En général, c'est sur une même parcelle, vous cultivez plusieurs variétés ensemble?
Non, moi je me suis plus orienté sur des variétés pures. D'accord. Afin de bien les connaître et peut-être les mélanger après. Quoi.
Mmh, okay. Donc, c'est après que vous les mélangez.
Soit mélanger les blés avant la meunerie, soit mélanger en culture. Mais bien connaître chaque variété, ce qu'elle apporte dans le mélange. Le problème, c'est que si on mélange des variétés, Florent Mercier l'a fait avec son mélange dynamique. Et au bout d'un certain nombre d'années, c'est les variétés les plus dynamiques au niveau végétation qui vont prendre le dessus. Donc on va perdre certaines variétés qui sont moins costauds et qui finalement sont peut-être intéressantes au niveau gustatif, au niveau meunerie, quoi. Donc il vaut mieux connaître chaque variété et faire ses assemblages après, quoi. Donc là c'est toujours le travail manuel. Bon, ça fait toujours on retrouve un petit peu les batteuses avec l'esprit ancien, quoi. Oui. On regroupe, on est toujours une dizaine, 10-15 personnes. C'est très sympa d'ailleurs, hein. On fait le casse-croûte comme dans le temps, quoi. Donc voilà. Et on retrouve un petit peu la valeur des choses, quoi. Parce qu'on va passer une journée pour battre 200 kilos de blé. Donc on sait qu'il y a du travail, on sait ce qu'il faut faire derrière, c'est quand même, on retrouve les gestes, on trouve pas mal de choses qui sont intéressantes, quoi. On trouve ce que vraiment le lien à la terre, quoi. Donc là c'est la batteuse que j'ai achetée il y a 3-4 ans.
Une batteuse à l'ancienne, quoi.
Voilà, carrément, une vraie batteuse à l'ancienne, en bois, de 1900, donc c'est une belle machine, hein. Il faut surtout les conserver, ces vieilles machines, elles sont toujours utiles. Et on a retrouvé un petit peu les gestes aussi, parce que c'était pas si évident. Au début, on mettait pas les gerbes comme il fallait dedans, et ça marchait pas bien, quoi. Donc il y a un ancien qui est venu nous faire voir, qui nous a dit « Ah, mais non, faites comme ça !» Et on a retrouvé un petit peu tout ça, quoi. Et ça marche très très bien.
Ah oui, on voit sur les photos qu'il y a le regard de l'ancien à chaque fois.
Oui, voilà. Il surveille. Donc là, c'était la deuxième année de multiplication. Et là, j'avais des grosses surfaces en blé moderne. Donc, il y avait toute cette surface-là. La parcelle, elle fait une dizaine d'hectares, là. Et j'avais la bande ici qui était en blé ancien. Et notamment, la partie qu'on voit, là, c'était du Saint-Prié et le Vernois rouge. Donc, c'est la variété que je produis beaucoup, là, actuellement. Et au niveau maladie, ça avait rien à voir. C'était bien plus joli. Les blés étaient magnifiques. Alors que les blés modernes, ils étaient pas beaux, quoi. C'était malade. C'était. Alors je suis un petit peu sceptique quand on dit que les semenciers ils sélectionnent des variétés sur la résistance aux maladies. Enfin, pour ma part, je suis sceptique. Hein. Je suis pas certain de la chose, quoi. Enfin, moi, l'expérience que j'ai, c'est pas le cas, quoi.
Ouais, vous trouvez qu'avec les variétés anciennes, vous arrivez mieux à vous en sortir avec les maladies?
Oui. La régularité est bien meilleure, quoi. C'est-à-dire que tous les ans, on a les mêmes rendements, quoi. C'est pas... Après, il faut bien choisir ses variétés en fonction de ses terrains, quoi. Ça, c'est important. Mais pour dire que l'an dernier, les rendements en blé n'étaient pas bons dans la région. Et les gens, il y a plein de gens qui sont venus, déjà les batteurs, les gens qui étaient sur les batteuses, ils se sont dit, ah ben tiens, je récupérerais bien un peu de semences, oui. Ils trouvaient que c'était plus joli que ce qu'ils avaient fait eux, quoi. Donc voilà, il y a quelques personnes comme ça qui récupèrent, qui ne sont pas en bio, et qui récupèrent quand même des semences de variétés paysannes, enfin modernes, enfin anciennes.
Et vous apportez du fumier sur vos parcelles pour cultiver du blé ?
Alors, très peu, très peu. Je travaille beaucoup sur les rotations. Donc je fais jamais deux blés sur la même parcelle, deux ans d'affilée. Alors je mets un petit peu de sarrasin aussi, je fais un peu de sarrasin. Donc souvent sur une prairie, après je fais directement un sarrasin. Donc après je mets un blé. Et ensuite je travaille sur les légumineuses. Donc je mets beaucoup de légumineuses. Actuellement beaucoup de luzerne, qui est une plante qui capte beaucoup l'azote de l'air. Bon, voilà, c'est gratuit. Les légumineuses, c'est une plante extraordinaire qui va capter l'azote de l'air et le redonner au blé. Donc, c'est gratuit. C'est la nature, elle nous apporte tout ce qu'il faut si on sait s'en servir. Effectivement, il y en a qui pensent qu'il vaut mieux mettre de l'azote, de l'ammonitrate avec des sacs d'engrais. Mais bon, c'est quand même alors qu'on l'a autour de nous, quoi. Il suffit de se servir, de savoir s'en servir, quoi. C'est complètement simple. Sachant qu'un kilo d'azote, c'est 2 kilos de pétrole utilisés, quoi. Donc c'est pas durable, hein. Donc c'est clair. Alors que vous semez de la luzerne, ça marche très bien, et les blés, ils en profitent derrière avec des taux de protéines qui sont élevés. Donc des beaux pains, voilà, bien goûteux. Bon, après c'est là une fois qu'on a battu le blé, c'est le triage. Avec un tarare, dont on a parlé, qui est un petit peu dans tous les greniers des fermes, hein, qui avait assez souvent, quoi, qu'on voyait assez souvent.
Donc il va servir à nettoyer et puis trier le grain en fonction de sa taille, c'est ça ?
Oui, surtout enlever la cale, en fait.
Et la cale, qu'est-ce que c'est ?
Ben, la cale, c'est l'enveloppe externe du blé, quoi. Donc c'est un matériel qui marche bien, hein, parce que j'ai un séparateur sur mon installation de stockage, mais qui n'est pas adapté pour effectivement trier directement la sortie de la batteuse, quoi. Donc on a remis ça en route et ça marche super bien. Tout simplement. Là, j'ai quelques exemples de blé.
Ah oui. Donc, ouais, ça donne des épis très différents. Et tout ça, ce sont des blés.
Alors tout ça, ce sont des blés. Là, il y a quand même deux particularités. Il y a du petit épeautre, que je ne produis pas chez moi parce qu'il faut le décortiquer. Et il y a du grand épeautre, qui est aussi la même chose parce qu'il faut les décortiquer. Donc le petit épeautre, c'est plutôt l'engrain, ça s'appelle, c'est l'origine des blés, en fait. Et le grand épeautre, ils sont pas tellement cousins, hein. c'est assez éloigné, en fait.
Là, ils ont le même nom, mais...
Ouais, voilà, c'est juste le même nom. Hein. C'est pas... Alors là, on a des blés poulards, je vous disais, avec des gros épis qui sont magnifiques.
Bien, hein. Charnus.
Bien charnus, voilà. Donc c'est le nom de poulard, il vient de là, en fait. Ça vient du... Okay. Ça fait des épis qui sont bien gonflés.
Et barbus.
Et barbus, oui. Je ne connais pas de poulard, pas barbu. Il y en a peut-être. Ça, c'est aussi un poulard espagnol, donc qui est plus blanc. C'est vrai que l'autre, il a une couleur un petit peu violette. Hein. C'est vrai, c'est une diversité qu'on n'est pas habitué à voir, hein, en fait. Alors ça c'est un amidonier. Alors ça c'est un peu comme le, c'est un petit peu comme le grand épeautre. Voilà. Ça c'est un rouge du Caucase.
Ouais, alors, vraiment différent. Ouais.
Qui a un épi énorme, voilà.
Avec plein de grains dessus.
Oui, j'ai retrouvé des traces 1830 à peu près, des écrits dessus. Ça doit être de la bladette de Provence, je pense. Et ça, c'est du Saint-Prié et peut-être du rouge de Bordeaux. Là. Voilà. Bon, ils se ressemblent quand même pas mal. Mm-hmm. Donc, c'est pas toujours facile à les distinguer. Mm. À part en culture, après, dans les champs, on connaît la hauteur, à l'épi, qui est un petit peu différent. Mais c'est vrai que, on voit déjà le panel de diversité qui est énorme.
Ouais, c'est très différent.
Hein, ouais, complètement différent. Ouais. Et des hauteurs de paille qui sont souvent au moins 1m40, quoi. Mm. 1m30, 1m40 minimum, quoi. Et voilà, donc bien connaître ces variétés. Le Saint-Prié, c'est une variété qui verse très peu.
Quand on dit verser, c'est quand ça se couche ou...
Voilà, qui se couche, tout à fait. Parce que c'est une variété qui vient de l'Allier. Et elle est caractérisée par ça. Sauf que sur le plateau de Millevaches, elle ne marche pas très bien, quoi. Donc voilà, il faut bien connaître ces variétés et les adapter en fonction de son terroir. Mmh. Très important. Ouais.
Ici, qu'est-ce que vous avez comme type de sol? Parce que sur le plateau de Mille Vaches, c'est très acide et un sol très léger. Ouais. Est-ce que c'est le cas également ici?
C'est complètement l'inverse. Voilà. Donc, c'est des sols limoneux, en fait. Limoneux battants, quoi. Donc, c'est pas des terres à sarrasin. J'ai souvent des soucis avec le sarrasin, ça marche pas très 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 bien au niveau des récoltes. Mais par contre, c'est plus des terres à blé, quoi. Voilà. Donc c'est vrai, après il y a des blés qui sont aussi produits sur le plateau de Mille Vaches, mais c'est un petit peu difficile, quoi. Je sais qu'il y a le blé de Mille Vaches, voilà. Mais après, c'est pas là où on fera peut-être les meilleurs blés quand même.
Vous l'avez déjà essayé celui-là?
Non, je l'ai pas testé. Je voulais en revenir un petit peu sur les semences. Bon, l'agriculture s'est modernisée, donc surtout après la guerre. Et le catalogue des semences, il est 1932, je crois. Donc, à partir de là, les semenciers, c'est eux qui ont pris en main, effectivement, la multiplication et la sélection des semences. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que les semences de tout temps, elles ont été sélectionnées, multipliées par les paysans eux-mêmes. Donc, ce que je refais, moi. Et du coup, avec cette spoliation par les semenciers, on a perdu, on a sectionné les rôles. C'est-à-dire que l'intérêt du paysan, l'intérêt du semencier et l'intérêt de l'utilisateur derrière n'est pas le même, en fait. C'est-à-dire que dans le temps, le paysan, il multipliait un blé. Il produisait, donc il y avait la culture effectivement qui était intéressante, savoir qu'il s'adaptait bien à sa parcelle et tout ça. Mais derrière, il consommait aussi le produit. Donc si le blé n'était pas intéressant au niveau consommation, il savait aussi. Donc il avait toute cette connaissance, quoi. Alors que maintenant, avec les semenciers qui, eux, font la semence, le paysan qui produit et le boulanger effectivement qui fait son pain derrière, on a trois métiers différents et qui ne sont pas forcément liés, et les intérêts ne sont pas forcément liés, en fait. C'est-à-dire que le paysan, lui, ce qu'il veut, c'est du rendement et faire le maximum d'argent, enfin, je pense, la plupart. Oui. Et donc le semencier, il va travailler dans ce sens, quoi. Mais il ne va pas forcément travailler sur le parfum des blés, sur le parfum, sur la qualité des farines, sur la digestibilité, sur des choses comme ça, qu'il a complètement perdu la maîtrise. Et ça, moi, je trouve que c'est important parce qu'on a, si vous voulez, le travail que je fais sur les blés, la chaîne, elle est complète, en fait. Je pars du semis. Où effectivement, je vais voir si ça correspond à mes terres, si ça me convient, si les rendements sont corrects. C'est pas le critère principal pour moi. Hein. Et après, effectivement, en meunerie, je vais voir si ça convient aussi. Et je vais voir effectivement comme on fait du pain pour nous et ma fille et mon gendre effectivement sont paysans boulangers, donc ils utilisent les farines. Et comme je vends aussi près du consommateur, les personnes, j'ai des retours. Ouais. Ça, c'est obligé. Donc je connais effectivement la qualité de mes farines, de chaque variété, et ça me permet effectivement d'avoir la chaîne d'un bois à l'autre, ce qui pour moi est très très important. Ouais. Et ce qu'on a perdu depuis des années avec l'industrie, parce que c'est de l'industrie, il ne faut pas se leurrer. Quand on achète du pain dans une boulangerie, c'est un peu de l'industrie aussi, quoi. Les farines, elles viennent du monde industriel, hein, c'est-à-dire des grands meuniers. Il y a deux grands meuniers en France, donc c'est pas des petits meuniers qui sélectionnent leur blé. Ça en existe encore, mais c'est assez rare, quoi. Et là, c'est vrai qu'on retrouve vraiment du sens de la production à la consommation, quoi. C'est vraiment... la chaîne, elle n'est pas rompue. J'ai fermé plus ou moins parce que j'ai des problèmes d'oiseaux qui est entré, et donc j'ai mis un émetteur ultrasons et j'ai fermé toutes les entrées qu'il y avait sous les toits pour essayer de... Bon, là ça marche, c'est vrai, parce que c'est important que ce soit nickel au niveau stockage, quoi.
Ouais. Parce que le blé est dans des silos là, mais qui sont ouverts pour pouvoir respirer, c'est...
Oui,
ça,
voilà, c'est ça, tout à fait. Donc ils sont ventilés par le fond, donc il y a un gros ventilateur. Donc il permet effectivement de le refroidir en hiver, c'est-à-dire de descendre en température, pour améliorer la conservation. Dans ces conditions, il n'y a pas de souci. Ça peut faire un petit séchage aussi, effectivement, à la récolte, si on n'est pas trop trop sec, quoi. Donc ça permet une conservation optimum. Le problème, c'est qu'on a toujours des petits soucis de souris, d'oiseaux qui peuvent rentrer. Donc là, j'ai les oiseaux, c'est réglé. Donc L'émetteur d'ultrasons a été assez efficace et fermé toutes les entrées, quoi. Donc, après, il y en a qui mettent des filets. Moi, j'ai pas voulu parce que c'est quand même dangereux à installer. Et en plus, j'ai pas envie qu'ils rentrent quand même dans le bâtiment, quoi. Donc là, là, ça va. Enfin, si on laisse la porte ouverte, des fois, il y en a un qui rentre. Mais bon. Alors après, j'ai un système de triage. Donc j'ai un trieur de nid qui peut trier 10 tonnes à l'heure. Donc c'est une machine assez, c'est une machine de meunier, quoi. C'est carrément. Je trie au stockage. Donc déjà, je stocke des grains qui sont propres. Et après, je retrie avant la mouture.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Donc c'est trié deux fois, quoi.
C'est trié deux fois. Voilà.
Il y aura une machine qui va être ajoutée en cours d'année, c'est une brosse à blé qui enlève vraiment les dernières impuretés sur le blé, quoi. Il y a, en principe, les paysans meuniers ne sont pas équipés, mais moi je tiens à aller vraiment au bout de la chose et vraiment d'avoir, d'avoir cet appareil qui finit vraiment de nettoyer tout à fait les dernières impuretés, quoi. Mais bon, c'est pas, c'était pas obligatoire. Après, là, j'ai un trieur alvéolaire, un trieur maro qu'on appelle. Donc, c'est une machine qui date de 1900, qui est hyper efficace. Hyper efficace, car elle permet de trier les graines rondes du blé, quoi. Les graines qui ont le même calibre que le blé, mais qui sont rondes. C'est-à-dire, il trie sur la forme.
D'accord, donc c'est un système de, comment dire, de tambour... Je vais dire de machine à laver, mais c'est pas tout à fait ça, mais un assemblage de tambours avec des grilles différentes.
Oui, c'est des tambours, mais c'est pas des grilles. C'est, en fait, c'est des tôles qui, avec des alvéoles. Donc la graine ronde va rentrer dans l'alvéole et y rester. Et le blé, qui est pas tout à fait rond, il va dépasser un petit peu et il va tomber dans l'alvéole. Donc c'est, voilà, c'est le système de triage qui est assez ingénieux et qui marche parfaitement bien, quoi.
Et ça, ce sont des outils qui sont actionnés à la main.
Non, il y a un moteur de machine à laver. Mais bon, c'est des petits débits, je m'en sers pas pour les. Je m'en sers juste pour la semence, en fait.
D'accord.
Voilà, quand je produis ma semence. Mmh. Bon, c'est quand même un travail de produire ces semences, mais. C'est. Enfin, après, voilà, on a... quand on est dans la semence paysanne, on se pose même plus la question, quoi, en fait. Tout est là, quoi. Il y a une chose aussi, c'est qu'il faut. Il faut aussi, enfin moi je traite mes semences avec de la moutarde pour éviter les maladies. Il y a certaines maladies qui peuvent être propagées par les blés, quoi. Donc il y a un traitement qui se fait avant le semis, quoi. Pas pour la mouture, bien sûr, avant le semis, quoi.
Mais comment ça vous traitez avec de la moutarde?
C'est un extrait de moutarde. Ça peut être du vinaigre blanc, mais moi j'utilise la moutarde. Okay. Donc voilà, c'est homologué pour la bio, ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et ça, parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la carie du blé qui peut être propagée, si vous voulez, par des gens qui ne sont pas assez rigoureux au niveau du tri des semences et du traitement. Et ça, c'est vrai qu'on est un petit peu accusé, nous, voilà, ceux qui utilisent des semences paysannes. C'est un petit peu un levier aussi pour l'industrie semencière, pour nous dénigrer, quoi.
Ah oui, mais en disant que vous propagez cette maladie.
Oui, tout à fait, oui. Alors que si on est sérieux et qu'on fait un travail sérieux, parce que semence paysanne, ça ne veut pas dire travail pas sérieux derrière, au contraire, hein, c'est, il faut être rigoureux, c'est important, et s'il n'y a aucun problème, quoi. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est aussi des... Il faut vraiment respecter les étapes et vraiment faire ce qu'il faut pour que le travail soit correct derrière, et ça peut que marcher, quoi. Il n'y a pas de souci.
Donc, du coup, si je comprends bien, sur cette ferme, vous essayez d'avoir un peu une articulation globale sur les terrains, c'est-à-dire pas seulement avoir des espaces de culture, mais aussi penser les haies, comme vous disiez. Et comment ça s'articule avec l'élevage de brebis, céréales, brebis? J'imagine qu'il y a une logique à ça aussi.
Ah oui, bien sûr, voilà, tout à fait, c'est une complémentarité. C'est un petit peu une symbiose, c'est-à-dire que l'élevage ovin, il m'apporte effectivement, bon, par les fumiers, il m'apporte un petit peu d'engrais, ça c'est clair. Mais aussi en culture, je fais ce qu'on appelle des dérobés. Donc des dérobés, c'est entre deux cultures. C'est une plante. Alors là, moi je fais beaucoup de navettes ou des navettes, du colza mélangé. Donc ça permet de nourrir des agneaux entre deux cultures, de finir des agneaux entre deux cultures. Mais ça marche très très bien. Bon, sauf l'an dernier où avec la sécheresse, ça a été un peu plus aléatoire. Mais habituellement, ça marche très bien. Et en plus, ça permet aussi, on peut avoir un peu de salissement sur les cultures, de remettre des prairies et utiliser pour les bêtes. Et les brebis, elles mangent certaines plantes qui seront détruites petit à petit, quoi. Comme le rumex, par exemple, qui est mangé par la brebis et qui finit par disparaître au bout de quelques années, quoi. Après, c'est bien connaître aussi ses sols et travailler... là, je travaille actuellement sur les luzernes, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est histoire de modifier le terrain de manière à ce que le sol, à ce qu'il puisse être moins réceptif aux mauvaises herbes, en fait. Voilà, c'est-à-dire évoluer sur la structure du sol et la composition de manière à ce qu'il puisse effectivement éliminer tout seul les mauvaises herbes qui sont indésirables. Comme le rumex et le chardon, par exemple, c'est des plantes qui se plaisent bien dans des excès de matière organique non décomposée. Donc il faut redynamiser tout ça pour trouver un sol mieux équilibré et qui sera moins sale, quoi.
Donc ça, l'élevage de brebis participe à la rotation des cultures et pour ne pas épuiser les sols et les nettoyer au fur et à mesure, quoi.
Oui, voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça permet de reposer aussi les terrains, quoi.
Parce que la particularité de votre élevage, c'est que les brebis, normalement, sont toujours à l'herbe, donc c'est-à-dire toujours dehors toute l'année.
Pas tout à fait. Il y a des troupeaux qui sont fermés en bergerie une partie de l'hiver, parce que la pression serait trop forte sur les prairies, ou alors à moins de sacrifier des prairies. Donc il y a une partie de l'hiver où elles sont fermées. Et après l'annulage, c'est-à-dire que le besoin des bêtes est calqué sur la pousse de l'herbe, en fait. Sur la pousse de ce qu'il peut y avoir sur la ferme, quoi. Donc l'annulage se fait donc au printemps, quand l'herbe commence à pousser. Donc c'est là que les brebis ont le plus de besoin, et donc là ça correspond bien. Après il y a un annulage qui se fait au mois de novembre-décembre, donc il y a encore un petit peu d'herbe, et là ça se passe pas trop mal. Bon, là où c'est un petit peu plus délicat, c'est pour passer l'hiver avec les agneaux, les mères. Donc c'est foin de luzerne, donc comme je produis de la luzerne, ça pose pas de problème. Et après, les agneaux sont finis à l'automne, souvent, une partie. Enfin, ceux qui sont nés au printemps, ils sont finis à l'automne. Donc, sur des repousses à l'automne, au mois de septembre, on se rend d'herbe, mais là, ça correspond bien aussi. Avec les dérobés également, quoi. Voilà. Donc, le petit truc, c'est de bien faire correspondre les besoins des bêtes avec les pousses de l'herbe, quoi.
Tout ce que mangent les brebis, que ce soit dans les fourrages ou ce que vous leur donnez, est produit sur la ferme.
Oui, complètement, oui. Bon, à part cette année où j'ai acheté un tout petit peu d'aliments, parce qu'avec les sécheresses, ça a été un petit peu compliqué, voilà. Mais oui, depuis plus de 10 ans, c'est le cas, voilà, tout à fait. Les agneaux, c'est uniquement nourri à l'herbe, ce qui marche très très bien, à condition de bien respecter certaines règles, comme le pâturage tournant. Et donc là, ça marche beaucoup mieux. En 2007, effectivement, il y a eu une augmentation des aliments et je travaillais de manière conventionnelle avant, avec des granulés en bergerie, donc c'était pas, voilà, ça me convenait plus. Et là, effectivement, j'ai complètement changé mon système et je suis passé à l'herbe. Il y a eu une grosse augmentation des aliments à cette époque-là. Et c'est ce qui m'a fait changer de stratégie. Et depuis, effectivement, je dépense plus d'aliments, donc j'ai pas de charge d'aliments sur ma ferme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je gagne deux fois plus et je travaille deux fois moins, quoi. Donc la stratégie a été vraiment payante, quoi. Il faut arriver à se remettre en question, enfin, c'est un petit peu le problème. Mais c'est vrai que là, je suis vraiment content, quoi. Alors c'est plus un travail d'observation qui correspond un petit peu à la permaculture aussi, quoi. C'est-à-dire que la permaculture, c'est plus observer. Et juste intervenir au minimum, quoi. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ça. Donc c'est observer les troupeaux, observer ses prairies, voir comment elles se comportent par rapport à la pâture. Changer les bêtes souvent. Moi, c'est actuellement, là, je change les bêtes tous les jours, en fait, de près, quoi. Donc c'est une rotation extrêmement rapide. Après, ça va se ralentir un petit peu avec la pousse de l'herbe, mais pour l'instant, c'est, voilà, pour éviter de surpâturer les prés, donc j'ai des chiens, bien sûr, j'ai 3 bordeurs. Ils sont très efficaces tous les 3.
C'est un travail de berger que vous faites.
Ah oui, complètement, oui. Donc c'est aussi assez technique, quoi. Après, c'est l'intuition de paysanne. Après, c'est le savoir paysan, quoi. Bon, j'ai quand même pas mal d'expérience et ça vient tout seul, quoi. C'est juste une logique qu'on finit par acquérir, quoi. Et on sort vraiment du système d'achat extérieur et voilà, c'est l'autonomie complète, quoi.
Ouais. Est-ce qu'en changeant justement de façon de travailler avec les brebis, vous avez remarqué des choses Par rapport au parasitisme, aux maladies, est-ce que ça a eu un impact là-dessus?
Je dirais parasitisme, ça dépend des années, c'est pas évident. J'utilise des plantes, aromathérapie ou bien phyto, pour les complémenter un petit peu et déparasiter. Ce qui marche, mais pas à 100% non plus. Le mouton, c'est quand même assez compliqué. Et c'est vrai que la rotation sur les prairies, si, ça diminue effectivement la pression. Il y a des années où je ne traite pas les bêtes du tout. Donc là, si, c'est clair quand même. Mais il faut bien gérer ces pâtures. Voilà. Et c'est vrai que les cultures, ça permet aussi de refaire des prairies plus souvent, d'avoir des rotations. Et donc, effectivement, les prairies qui sont faites récemment sont moins parasitées. Quoi. Donc ça rentre en compte aussi. Quoi.
Oui, parce que il me semble, si j'ai bien compris comment ça marche à l'élevage, c'est que toutes les histoires de parasitisme, les parasites, ils sont dans les prairies, dans les pâtures, hein, c'est ça. C'est ouais. Pas seulement sur les animaux.
Hein. Ah non, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. C'est des parasites qui sont effectivement sur les pâtures. Ils se reparasitent par les excréments. Et voilà. Donc c'est un cycle, en fait. Alors, si on met des temps assez longs entre les pâtures, on rompt le cycle, en fait. Et donc c'est le principe du pâturage tournant, quoi. Donc c'est vrai que si on laisse des bêtes tout tarnées sur la même pâture, elles se parasitent énormément. Quoi. Ouais. Là, il faut faire des parcs, des petits parcs. C'est pour ça qu'actuellement, on change tous les jours, pour éviter la pression trop forte, faire raser, parce que quand on fait trop pâturer aussi, le parasitisme, il s'amplifie aussi. Donc c'est une technique qui maintenant est assez connue. Quoi. C'est pas, mais c'est assez efficace. Hein. C'est pas, là, pour l'instant, les agneaux, ils sont... Il y en a qui sont presque bons à vendre, qui sont nés au mois de décembre, j'ai pas fait de traitement encore. Je pense pas en faire. Donc ça marche bien, mais il faut bien respecter quelques règles.
J'avais envie de revenir un peu sur votre histoire personnelle. Comment vous en êtes arrivé à faire ça? Est-ce que c'est un héritage familial? Vous avez suivi ce que vos parents ont fait? Vous avez repris une exploitation? Comment ça s'est passé?
Oui, alors je suis issu du milieu paysan, mais par mes grands-parents, en fait. Parce que mon père était fabricant de conserves, donc rien à voir avec l'agriculture, enfin un petit peu, mais de loin. Et ma mère était muraliste. Elle avait un bar tabac journaux, donc voilà. Donc c'était pas directement de mes parents. Et moi, j'étais pas trop destiné à faire de l'agriculture, bien qu'au fond de moi, il y avait quand même la passion, quoi. Et j'avais fait des études de dessinateur industriel à Brive, à Cabanis. J'ai travaillé un an à l'extérieur, donc à la SAGEM à Montluçon, où j'étais salarié en tant que dessinateur industriel. Ouais. Et effectivement, ma mère gérait la ferme de manière assez éloignée, donc ça n'allait pas très bien. Donc elle m'a dit, soit tu reprends, soit je vends l'exploitation. Et là, c'était pas possible que cette exploitation parte, enfin cette ferme. C'est vrai que, voilà, donc j'ai fait une formation de berger à Saint-Thierry, à La Faille. Et je me suis installé dans la foulée, donc en 87. Et ça fait 30 ans actuellement. Je me suis installé directement en bio, parce que pour moi, c'était une évidence de ne pas utiliser les pesticides. Je suis un peu allergique aux pulvérisateurs. Mais par contre, c'est vrai que j'ai commencé dans un système assez conventionnel dans la région. C'est-à-dire des agneaux de bergerie, voilà, et des labours assez profonds. Enfin, voilà, je m'étais pas trop intéressé à toutes ces techniques nouvelles du sans-labour, des agneaux d'herbe. Après, c'est une évolution qui s'est faite au fur et à mesure des années, et de la réflexion, et des remises en cause successives. Et c'est vrai que je m'intéresse énormément à toutes ces nouvelles techniques qui peuvent apporter simplicité, économie, autonomie, voilà, donc ça c'est vraiment... Après c'est un état d'esprit, quoi, faut pas hésiter à se remettre en question, c'est un métier où on peut le faire facilement si on a l'esprit assez libre. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais vraiment parti dans un système conventionnel, enfin conventionnel non, parce que c'était quand même en bio, ce qui à l'époque, en 87, n'était pas une évidence, quoi, c'était un peu les pionniers, quoi, je dirais, enfin pas tout à fait, mais un peu... Et donc, on était un peu regardé bizarrement, on ne savait pas trop ce que c'était. Mais voilà, après, on peut évoluer dans sa vie, dans sa carrière, dans ses pensées. Moi, je sais que j'ai beaucoup évolué sur pas mal de choses, quoi. Au niveau de toute la ferme, de la globalité, c'est une grosse évolution, quoi. C'est l'intérêt du métier, d'ailleurs, hein, c'est qu'on peut faire, effectivement, on peut évoluer énormément, quoi. On peut faire plein de choses sur une ferme, c'est incroyable. Il y a une richesse incroyable.
Ouais, il y a de quoi remplir une vie d'expériences et de nouvelles nouveaux tests.
Oui, peut-être plus qu'une vie, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Donc j'ai encore plein de choses à tester, voilà, des semis couverts de luzerne, des choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Si on arrive à mettre ça en place, on peut travailler effectivement sur les cultures, sur les animaux, de manière beaucoup plus avec des rendements supérieurs qu'en fait pas une rentabilité si vous voulez, mais un rapport qui serait enfin, c'est pas financier ce que je veux dire, mais c'est parce que la terre elle est quand même faite pour produire. Moi je parle là-dessus en fait. Si vous voulez, je pense que notre rôle de paysan, c'est quand même de produire. On n'est pas là juste pour entretenir le paysage. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai qu'avec des techniques comme ça, on peut vraiment produire. On peut produire, je pense, plus que des céréaliers dans la bouse, quoi, pratiquement, et de la qualité, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes à travailler. Bon, là, je suis dessus. C'est un petit peu compliqué. On a plein de choses à apprendre. Plein de choses à apprendre. Travailler des jardinières, on ne sait pas trop faire. Les mettre en plastique, après les travailler, les favoriser, semer les blés dedans, c'est encore des variétés à bien maîtriser, enfin c'est plein de choses quoi. C'est une grosse technique paysanne à mettre en place, mais c'est tellement intéressant que il faut que il y a plein de choses à faire encore. Même au niveau agroforesterie aussi également, j'ai mon fils qui s'y intéresse, et je pense qu'on va faire un projet là-dessus quoi, donc encore plein de choses à faire quoi. Effectivement, il faudrait plusieurs vies, quoi. Mais bon, j'ai des enfants qui s'y intéressent, donc...
Oui, c'est ça, il y a l'air d'avoir de la relève.
Oui, bah, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien.
D'entendre Laurent Pénicaud, paysan à Linard en Haute-Vienne, qui élève des brebis à l'herbe, cultive des variétés paysannes de blé et fait de la farine. Histoire de terre est diffusée un mercredi sur deux à 19h et un samedi sur deux à 11h. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site internet radiovassivière.com.